Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, comme un goût amer.
Oui, après plus de 2 ans de débats politiques acharnés sur la question de savoir si le glyphosate est ou non cancérogène, hier, l'Union européenne a donc décidé de renouveler pour 5 ans la licence d'utilisation de l'herbicide controversé le plus utilisé au monde. Il y a 3 semaines seulement de la date d'expiration de la licence actuelle, c'est peu de dire que ce vote apparaît comme une véritable surprise tant les divisions semblent être insurmontables. Au tour précédent, le nombre de voix requis n'avait pas été atteint. Cette fois-ci, 18 pays ont soutenu la proposition de la Commission et en particulier l'Allemagne, dont le revirement spectaculaire, écrit le magazine Politico, a fait pencher la balance. Son confrère belge, L'Avenir, est lui encore plus explicite. L'Allemagne a tout simplement sauvé, dit-il, le glyphosate. Et de fait, jusqu'à présent, Berlin s'était toujours abstenu sur cette question, non pas qu'en l'absence de certitude, nos voisins outre-Rhin préféraient s'en tenir au principe de précaution, non, le blocage était purement politique. Les conservateurs de la chancelière étaient alors en pleine négociation en vue d'obtenir un gouvernement de coalition avec les Verts, farouchement anti-pesticides. Or, ces pourparlers s'étant effondrés, la CDU avait donc à nouveau les mains libres pour approuver le glyphosate. Et c'est ainsi que ce matin, le débat dans la presse germanophone ne porte pas tant finalement sur les inquiétudes autour de la protection de l'environnement ou de la santé, mais plutôt sur la question de savoir si le virage à 180 degrés de l'Allemagne hier est à même de faire dérailler désormais les pourparlers de coalition entre les conservateurs d'un côté et les sociaux-démocrates de l'autre. Dans cette série à rebondissement des négociations gouvernementales, écrit la Deutsche Welle, le patron du SPD, Martin Schulz, lequel refusait catégoriquement il y a encore une semaine de ressusciter la grande coalition avec la CDU, avait fini par céder à la pression vendredi dernier en acceptant de discuter avec Angela Merkel. Sauf que le vote sur le glyphosate pourrait bien mettre cette fois-ci un terme définitif à la possibilité d'une nouvelle alliance de la chancelière avec les sociaux-démocrates, pourtant la seule alliance possible mathématiquement qui lui donnerait une majorité au Bundestag et lui éviterait ainsi de repasser par les urnes. Hier, le vote a en effet provoqué la colère de la ministre de l'Environnement, membre du Parti social-démocrate et farouchement opposé au glyphosate. Barbara Hendricks accuse le ministre de l'Agriculture Christian Schmidt d'avoir outrepassé ses prérogatives et d'expliquer notamment que le matin même, après avoir expliqué à son collègue son opposition à la prolongation de l'herbicide, elle et le ministre de l'Agriculture avaient convenu que l'Allemagne s'abstiendrait à nouveau. Et c'est ainsi que la ministre de l'Environnement parle à présent d'une rupture de confiance au sein de la coalition actuelle.
Et pendant ce temps en Autriche, la constitution du prochain gouvernement, Thomas, est elle aussi scrutée de très près.
Oui, depuis un mois environ, le parti conservateur et le parti d'extrême droite négocient une nouvelle alliance gouvernementale. Une nouvelle réunion des chefs de parti est prévue aujourd'hui. L'occasion pour le journal Courrier de faire le point sur ce premier mois de négociation. Les négociateurs ont d'ores et déjà convenu que les réfugiés reconnus comme tels ne seront plus autorisés à demander la citoyenneté après 6 ans, mais 10 ans. Les expulsions devront également être accélérés et les délais de recours raccourcis pour les procédures d'asile. Et puis des restrictions aux garanties minimales comme par exemple les prestations sociales viseront principalement les demandeurs d'asile. Et le journal Le Temps de rappeler pour sa part qu'en Autriche, une coalition avec l'extrême droite a déjà existé entre 2000 et 2006. À l'époque, plus de 200 000 Autrichiens étaient alors descendus dans la rue pour protester. Or, depuis l'annonce des négociations il y a près d'un mois, les rassemblements ont été peu suivi. Le dernier en date, l'un des plus importants, n'a réuni que 3000 personnes. Le journal de Lausanne qui nous apprend également ce matin que le docile Parlement russe a voté un budget où près d'un tiers des dépenses seront désormais absorbées par la sécurité. Les dépenses militaires en particulier font un bond spectaculaire de 32%. Pour cela, Vladimir Poutine a décidé de sabrer dans les postes budgétaires les moins importants à ses yeux, la santé, le logement, la culture et l'éducation. Un arbitrage qui ne laisse planer aucun doute donc sur les priorités du Kremlin. En revanche, il n'est pas certain que les électeurs appelés à réélire Vladimir Poutine le 18 mars prochain partagent les mêmes priorités.
Et quand on parle aujourd'hui de la Russie, la Syrie n'est jamais bien loin. Aujourd'hui, l'ONU tente justement de relancer les pourparlers de paix de Genève au point mort depuis plusieurs mois.
Oui, une 8e série de pourparlers en vue de trouver une solution politique à la guerre. Sauf qu'hier soir encore, le régime de Damas, fort de ses victoires militaires, continue à laisser planer le doute quant à sa participation. Et forcément, lorsque la présence de l'un des principaux acteurs est encore encore dans les airs à la veille du rassemblement. Cela ne présage rien de bon, prévient The Los Angeles Times. Un journal syrien laisse lui entendre que la délégation gouvernementale ne viendra pas à Genève tant que les factions rebelles exigeront le retrait de Bachar el-Assad ou quand la guerre en Syrie apparaît plus que jamais dans l'impasse.
Enfin, toute la journée d'hier, encore des politiciens de droite et des internautes se sont déchaînés contre le président israélien Reuven Rivlin.
Oui, le président est la cible d'une virulente campagne de diffamation depuis qu'il a refusé de gracier Elor Azaria, un soldat condamné à 18 mois de prison pour avoir achevé d'une balle dans la tête un Palestinien blessé qui avait quelques minutes auparavant tenté de poignarder un autre soldat de l'État hébreu. Sur Facebook notamment, des photos circulent montrant le président israélien affublé du kéfier de Yasser Arafat. Sur d'autres, il porte un uniforme SS ou bien une corde de pendu autour du cou. D'où ce commentaire du quotidien Yediot Aharonot. Avant, dit-il, ceux qui voulaient insulter une personnalité politique se cachaient derrière l'anonymat. Mais aujourd'hui, ils le font à visage découvert et ne le regrettent pas. Au contraire, ils en sont fiers, constate Amer, le plus grand quotidien du pays.